Amen, une chaîne d'amour. Voilà, on n'est pas tout seul. Est-ce que vous avez des hobbies, des passions? C'est quoi? C'est quoi vos hobbies? Je vous passe la parole. La lecture. La lecture comme passion. Est-ce que vous avez d'autres passions? La marche? Moi, j'aime bien la musique aussi. Vous n'avez pas plus de passion que ça? C'est fou. Cuisiner. Voilà. Yes. Maintenant, je vais poser une question un peu différente. Ces hobbies, ces passions, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez que ça vous apporte? Pas facile comme question, hein? De penser à autre chose. Se ressourcer. Ouais. Se défouler. Avoir de la joie. Moi, avec la musique, je m'exprime aussi. Ça nous apporte des choses et on fait ces choses aussi parce que on en attend quelque chose. Si on a des hobbies. Parlons maintenant un petit peu de la foi. Hein, parce qu'on est là pour ça, je crois. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à votre foi? Est-ce que vous souhaitez que votre vie spirituelle fasse vraiment une différence, une grosse différence dans votre vie? Et là, je me dis, il faut que je change de job. Oui, ah, c'est bien, oui. Non, on aimerait que notre vie spirituelle, notre foi, ça fasse une différence dans notre vie. Que la foi, ça change quelque chose. Voilà. Moi, j'aimerais que la foi, pour moi, ça change quelque chose. Et pour ça, il y a un secret, et c'est un secret que les Grecs de l'Antiquité, il y a fort longtemps, connaissaient déjà, et appelaient métanoïa. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour vous expliquer ce que c'est, il faut d'abord que je vous raconte une petite histoire qui se trouve dans un vieux livre que j'ai oublié de prendre sur scène avec moi. Ouais, mais je préfère la seconde. Mais oui, c'est un vieux livre, la Bible. Bien joué. Alors, c'est peut-être un grimoire, la Bible, hein, qui sait. Voilà, c'est Jésus qui raconte une histoire. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Ça commence mal. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts-là. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, donc Jésus vous le dit, je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, lorsque le collecteur d'impôts descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Voilà, voilà. Alors, ok, dans cette... Oui, c'est ça. Ah, il y avait le texte là, c'est magique. Ok, dans cette histoire, Jésus raconte deux gars vont faire une démarche spirituelle. Genre, ils viennent à une célébration à la sacoche. Le premier, le pharisien, c'est un mec qui passe pour un champion de la religion. Hein. Il connaît super bien sa Bible, il porte un uniforme impeccable, surtout il se la pète. Il frime avec toute sa connaissance de la religion. Et ce gars-là, le pharisien, quand il vient prier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Merci Seigneur parce que moi, je suis le meilleur. Je pêche pas, je récite bien mes prières, je suis un croyant modèle. » Ok? Le deuxième gars, c'est un collecteur d'impôts. Alors, pour l'époque, on va traduire ça en français moderne, c'est un voleur professionnel. Alors ce gars, déjà, quand il vient prier, il a honte de ce qu'il fait. Alors il se tient à l'écart, il tient le regard baissé, et ce qu'il dit, c'est « Oh Dieu, aie pitié de moi, je suis un mec qui a fait des trucs pas bien. » Voilà, deux gars, deux démarches différentes, et Jésus raconte que Dieu rejette le super religieux et déclare juste le voleur professionnel. Pourquoi ? C'est quoi la différence entre les deux ? Son attitude de cœur. Ouais, c'est pas mal ça. La première démarche spirituelle, celle du pharisien, elle est décorative. Hein. Elle sert à rien, sinon à se faire du bien à soi-même. Il s'auto-congratule. Sa prière, ça pourrait être ça. « Vive moi !» Il a l'air super religieux, mais en vrai, dans son cœur, il est tourné sur lui-même. « Moi, je suis le meilleur. » Et dans cet état d'esprit, ce gars, il ne peut pas changer. Forcément, hein, parce que ce qui est de mieux, en principe, on fait quoi ? On fait tout pour le conserver. On ne le change surtout pas, ce qui est le mieux. Si je pense que je suis le meilleur, ben, je ne vais pas changer. Je vais simplement rester figé dans ma médiocrité. Ma vie spirituelle se résume à de la décoration et à une décoration pour me faire croire à moi-même que je suis un mec bien. C'est bon, je suis pharisien, je fais partie des élus, je suis bien, je suis le meilleur. Et en faisant ça, si je fais ça, je me mens à moi-même. Ça ressemble un peu à de la pensée positive. C'est bon, tout ira bien parce que je pense positif. Le deuxième gars, sa démarche spirituelle, elle est un peu différente. Il vient vers Dieu, il ouvre son cœur à Dieu. Et en présence de Dieu, il regarde ce qu'il y a dans son cœur. Il sait qu'il a fait des trucs pas bien et il en a honte et il demande la pitié de Dieu. Il demande de l'aide à Dieu, il demande de l'aide pour être pardonné et pour que ces choses changent dans sa vie. Et ça veut dire, premièrement, qu'il est disposé à changer. Quand on dit « pardon, je suis un homme pécheur, pardon, j'ai fait des trucs pas bien », c'est qu'on est disposé à changer d'une certaine manière. Et deuxièmement, le fait qu'il vienne au temple faire ça, ça dit qu'il est actuellement en train de changer. Sa façon de regarder à sa vie est en train de changer. Son mode de pensée est en train de changer. Il y a un retournement de sa pensée qui est en train de s'opérer. Et ça, c'est ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient métanoïa. Métanoïa, littéralement, ça signifie le retournement de la façon de penser, un changement fondamental dans l'attitude, dans la manière comme je calcule le monde, un changement fondamental là-dedans. C'est un changement de la disposition du cœur. Je pense différemment. Et qu'est-ce qui se passe si je pense différemment ? Ben, je me mets à agir différemment aussi, à fonctionner différemment. Et est-ce que vous savez, par hasard, hein, comment on traduit « métanoïa » en français dans la Bible ? Pardon ? Métamorphose, c'est joli, mais ce n'est pas le cas. Changement non, repentance, bien joué. Repentance, souvent quand métanoïa est traduit dans la Bible par repentance, ce mot-là. La repentance, ce n'est pas une action, ce n'est pas un rite, ce n'est pas un spectacle. Il ne suffit pas de venir se mettre à genoux au banc de la grâce, au pied de la croix, pour dire comme le pharisien « c'est bon, voilà, je suis repenti ». La repentance, c'est vraiment un retournement du cœur. Je retourne mon cœur pour décider de calculer le monde différemment, de voir le monde différemment. Et ça, ça va nécessiter de prendre conscience de mes péchés, on en a parlé un peu dimanche passé. Ça va nécessiter de demander pardon et de demander de l'aide de Dieu pour fonctionner différemment. Mais ça, on va revenir là-dessus dans un moment, dans le deuxième input. Pour le moment, je vous propose une première question de réflexion. J'aime bien proposer des questions de réflexion. Dans mon cœur, est-ce que je suis plutôt pharisien à me dire que de toute manière, je suis un bon chrétien avec mon ticket pour le paradis ? Ou bien est-ce que dans mon cœur, je suis plutôt collecteur d'impôts ? J'ai conscience de mon péché et surtout, j'ai conscience que j'ai besoin de Dieu. Est-ce que j'ai conscience que j'ai besoin de Dieu. Alors je vous dis tout de suite, hein, on a tous besoin de Dieu. La question c'est, est-ce que j'en ai conscience ? On reviendra sur ces questions, elles sont affichées toujours à la fin. Repentez-vous au quotidien. Ok. Il existe deux sortes de repentance. Peut-être qu'il en existe plus, mais dans ma tête, il en existe deux en tout cas. Il y a la repentance-conversion. C'est la première prise de conscience que je suis pécheur, destiné à mourir, mais que Dieu me sauve de la mort par Jésus-Christ à la croix. Cette repentance-conversion, c'est celle qui me met en mouvement une première fois pour décider de suivre Jésus-Christ. C'est une repentance-conversion parce qu'elle nous conduit à croire en Dieu. Elle nous conduit à décider de changer de vie pour devenir chrétien. Chrétien, ça veut dire disciple de Jésus. Disciple du Christ. Et parfois, c'est un changement spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu de ces témoignages. Oh, un toxicomane est devenu pasteur. Wow, incroyable, le changement est spectaculaire. Cette repentance-conversion, pour certains, c'est un truc qui s'est fait en une seconde. Tout à coup, ils ont réalisé, oh, j'ai besoin de Jésus. Pour d'autres, puis ils peuvent vous dire le jour et puis l'heure. Et puis pour d'autres personnes, ça a été un long processus. Et puis un jour, ils se rendent compte que oui, ils peuvent dire « Oui, Seigneur Jésus, je te veux comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te donner ma vie. » Et peut-être que certains parmi nous sont encore sur ce chemin. Puis il y a une deuxième sorte de repentance, je l'ai appelée la repentance entretien. Alors la semaine passée, on a vu que l'apôtre Paul écrivait une lettre aux chrétiens de Rome et il leur disait « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. » Paul écrit ça à des chrétiens qui sont déjà chrétiens, qui forment une église. Donc même chrétiens, nous continuons à pécher. On en a déjà parlé de la semaine passée, avec ce leitmotiv, le péché c'est grave, mais réjouis-toi, Dieu te pardonne. Je trouve qu'on peut comparer la repentance à faire le ménage chez soi. Il y a la première fois qu'on fait le ménage, par exemple à la fin du chantier de construction, dans la maison toute neuve, ou bien quand on investit une maison qui n'a pas été habitée depuis très longtemps. Et ce premier ménage, il apporte un changement spectaculaire dans la maison. La maison devient habitable, elle devient accueillante. C'est comme la repentance-conversion. Qu'est-ce que je dis ? Je me perds dans mes notes. Oui. Si on veut garder cette maison habitable, alors il va falloir faire le ménage toutes les semaines. Toutes les semaines un petit peu, ou enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Parce que par nature, nos maisons, elles se salissent toutes seules. Un truc que je n'ai pas trop compris. Si je fais rien, il y a de la poussière qui s'accumule, il y a des traces de pas qui restent sur le sol, etc. Nos maisons, elles se salissent un peu toutes seules et si on ne les nettoie jamais, alors au bout d'un moment, notre maison qu'on avait nettoyée toute propre, elle redevient toute sale, comme si on n'avait rien fait. Et nos cœurs aussi, si on veut les garder accueillants pour Dieu, habitables et accueillants pour Dieu, c'est bien de pratiquer régulièrement de la repentance. Pour faire le ménage. Et cette repentance-entretien, c'est plus un style de vie, une attitude de vie. Si je vois qu'il y a du péché dans ma vie, je le nettoie tout de suite. Comme le dit le collecteur d'impôts, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. » Alors oui, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne, mais pour ça, je crois qu'il est quand même un peu nécessaire qu'on revienne à lui sans cesse pour lui ouvrir notre cœur, pour lui demander de nous pardonner, pour accepter son pardon. On va en reparler dans quelques minutes. J'aimerais laisser cette question de réflexion, peut-être un peu dérangeante, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas mal comme question. Quand est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu ? Quand est-ce que je me suis repenti pour la dernière fois ? Ok, j'ai parlé de changer de manière de fonctionner. Changeons nos manières de fonctionner. Je veux revenir sur ce fonctionner différemment. Parce que la repentance, c'est un peu plus que juste passer un coup de balayette sur nos manquements. Si on prend au sérieux que le péché, c'est grave, alors quand je cherche le pardon de Dieu, je devrais aussi chercher qu'est-ce qui m'a amené à pécher. Je crois qu'une partie importante de nos péchés vient de nos manières de fonctionner. On a tous des manières de fonctionner qui nous sont propres. Je crois que là, c'est important que Dieu nous montre quelles sont nos manières de fonctionner qui nous conduisent à pécher, ou plutôt qu'il nous montre comment ces manières de fonctionner nous amènent à pécher. Parce qu'il y a des manières de fonctionner qui, des fois, oui, enfin, je l'ai dit. Puis ensuite, on peut demander à Dieu qu'il nous aide à changer ça. Ok, un exemple de manière de fonctionner, c'est, en psychologie, ils appellent ça les pilotes clandestins. On a tous un ou plusieurs petits pilotes clandestins qui tient le volant dans notre inconscient et qui nous chuchote une manière de fonctionner dont on n'a pas conscience. Moi, pendant longtemps, encore aujourd'hui sans doute, mon pilote clandestin, il me dit « Dépêche-toi ! Dépêche-toi !» Dans ma manière de fonctionner, il y avait toujours ça qui revenait. Il fallait se dépêcher de sortir prendre le bus, se dépêcher pour ceci et cela. Et j'en avais pas conscience. Et j'ai fait du mal à Séverine parce que je l'ai stressé souvent. On avait le temps, on avait tout le temps de se préparer, mais je lui disais « Dépêche-toi, dépêche-toi !» Puis je me suis fait du mal à moi-même aussi avec ce « Dépêche-toi !» Parce que j'aurais pu pas me stresser, prendre du temps, cool, Raoul. Être prêt vite, se déplacer vite, aller vite. Et ce pilote clandestin, dépêche-toi, il m'a conduit à pécher. Alors maintenant que je l'ai identifié, pour moi, je peux le reconnaître et puis lui dire non. Des fois, on se prépare avec Séverine, et puis il y a une petite voix en moi qui dit « Hé, Antonin, dépêche-toi !» Là, je peux lui dire « On a le temps, on va pas se dépêcher. » Alors, il existe d'autres pilotes clandestins. Par exemple, il y a « Sois parfait ». Voilà, t'as pas le droit à l'erreur. Sois le meilleur, sois bien habillé, fais les choses correctement. Il y a aussi « Sois fort ». Voilà, montre que tu es assez fort, assez compétent. Refuse la faiblesse. Surtout, ne demande pas d'aide. Il y a aussi « Fais plaisir ». Fais plaisir. Voilà, écrase-toi devant les autres. Évite les conflits. Ou il y a encore, fais un effort. Ouais, fais un effort, fais-en toujours plus, repose-toi pas, fais un effort. Et ces pilotes clandestins, c'est juste un exemple parmi d'autres de manières de fonctionner, de nos manières de fonctionner qui peuvent nous amener à adopter des comportements de péché, des comportements qui vont nous éloigner de Dieu. D'où l'importance d'être prêt à changer nos manières de fonctionner. Mais, et c'est important, essayons pas de changer tout seul. Si je décide moi-même que je veux changer quelque chose, que je décide moi-même ce que je veux changer et que j'essaye tout seul, alors je mets Dieu de côté. Et là, il y a le risque assez fort de pécher. Le changement, il va y en avoir, oui, mais peut-être que ce sera le fruit du péché plutôt que le fruit de l'Esprit Saint. Donc, ce que j'aimerais nous inviter à faire, c'est de demander à Dieu que ça soit Dieu qui nous révèle ce qui doit changer en nous. Et puis de demander à Dieu de changer ça. Et ensuite, je peux travailler ensemble avec Dieu, main dans la main, pour changer la manière dont je fonctionne. Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu nous transforme et il peut renouveler notre intelligence. Alors, cherchons sa face. Et la deux questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les fonctionnements que Dieu me demande de changer ? C'est, enfin, qu'on peut se demander, qu'on peut surtout prier. Et puis, est-ce que je suis prêt à changer ? Pas facile, hein ? Je propose qu'on prenne un temps, peut-être Nina ? Non, Jonathan. Faire un peu de musique, comme ça on peut prier pendant ce temps, puis après je vais faire un deuxième input.